Lizzie présente Petites habitudes, grande réussite. 51 pratiques inspirantes pour devenir une meilleure version de soi-même. De Onur Karapinar, lu par Nicolas Jermag. Introduction. Tout commence par nos habitudes. Surveillez vos pensées car elles deviennent vos mots. Surveillez vos mots car ils deviennent vos actions. Surveillez vos actions car elles deviennent vos habitudes. Surveillez vos habitudes car elles deviennent votre personnalité. Surveillez votre personnalité car elle devient votre destin. Lao Tzu, philosophe chinois. Mon histoire. Statistiquement, j'avais tout ce dont j'avais besoin pour ne jamais écrire un livre et devenir ce que je suis devenu. Je suis né à Paris de parents immigrés, issus d'une condition sociale très précaire. J'ai grandi dans une famille monoparentale avec une mère sans activité professionnelle. À l'école primaire, j'étais un peu timide et réservé, mais j'étais bon élève. Du moins au début. Dans son pays, ma mère avait arrêté l'école à l'âge de 10 ans. Elle ne savait ni lire ni écrire et ne pouvait pas m'aider à progresser. Je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo ou à regarder la télévision. Ma mère n'avait trouvé que ce moyen pour me canaliser. Malheureusement, j'avais développé une addiction qui n'aura pas été sans conséquence dans mes études. Je passe en seconde de justesse, grâce à mes notes en histoire, en géographie et en français. À 4 points près sur l'ensemble des épreuves, je n'avais pas mon brevet des collèges. Au lycée, je paie le prix de toutes ces années passées sans avoir travaillé. Je redouble ma seconde et me retrouve ensuite en première STI en spécialité génie électrotechnique, un bac qui me destinait à la production et à la maintenance d'automates programmables. Ma sensibilité étant celle d'un profil littéraire, j'étais resté en retrait de mes études. Dans les 5 mois qui précèdent l'épreuve du baccalauréat, mon professeur principal me dit que si je continue comme ça, je n'obtiendrai pas mon diplôme. De toute évidence, je ne suis pas né sous la bonne étoile. Je suis né pauvre, dans des conditions très précaires, je ne mangeais pas à ma faim, je n'ai pas fêté mon anniversaire ou même Noël, je ne partais pas en vacances faute de moyens et rien ne m'encourageait à libérer mon potentiel. J'étais frustré et en colère, parce que je n'avais pas eu la chance de naître dans une famille plus aisée. C'est le côté injuste de la vie. Les cartes sont distribuées et je ne partais pas avec le meilleur jeu. Je me sentais impuissant, désespéré et convaincu que je n'avais pas le pouvoir de changer ce qui semblait être mon destin. Heureusement, mon professeur de philosophie a compris cela, et nous avons pu entretenir une longue correspondance au cours de mon année de terminale. Son soutien a joué un rôle majeur. Il était un peu ce père que je n'avais jamais eu. Un phare qui me guidait dans l'obscurité. Peu après, j'ai joué un rôle actif dans le conseil de la vie lycéenne où j'ai pu gagner la sympathie de la proviseure qui s'est montrée bienveillante envers moi. Ce rôle de conseiller et la confiance de la proviseure ont été un vrai déclic dans ma vie. Je ne pouvais pas rattraper toutes ces années de retard et de mauvaises habitudes, mais je me suis engagé à faire des efforts pour témoigner de ma bonne volonté. À la veille de la première épreuve de spécialité, la plus importante, je m'étais surpris à prier pour la première fois et à parler tout seul. Ça y est, je devenais fou. Le lendemain, j'avais une chance sur 6 de tomber sur le sujet que j'avais révisé et pratiquement mémorisé par cœur. Autrement dit, mon redoublement était quasiment assuré. Contre toute attente, j'avais pioché le sujet que j'espérais tant. J'ai pu limiter la casse dans les autres matières scientifiques et obtenir mon bac. Maintenant, j'étais libre. J'ai poursuivi mes études à l'Université Sorbonne Nouvelle, où j'ai pu décrocher un entretien avec le directeur de l'unité de recherche. Je lui avais confié mon histoire dans un courriel et il avait souhaité me rencontrer. Peu après notre entretien, je fus admis dans la formation que je voulais, une licence de communication et de lettres modernes. Cela a été une grande victoire. C'était un nouveau monde que j'attendais avec beaucoup d'excitation. Seulement, j'avais entretenu tellement d'attentes que je suis tombé de haut. Très haut. Je n'étais pas prêt à suivre autant de cours théoriques. Je n'en comprenais pas l'intérêt, ni même la portée. J'ai fini par choisir les cours qui m'intéressaient le plus, désertant l'amphithéâtre pour les autres. À la fin de l'année universitaire, je me retrouve avec 10 matières à rattraper, dont une où je n'étais jamais allé en cours. Je ne savais même pas que j'y étais inscrit. J'étais vraiment à deux doigts d'arrêter mes études à ce moment-là. Mais je m'étais tellement démené pour mon admission à l'université que j'ai décidé d'assumer mes bêtises dans un sursaut d'orgueil. Le passage en seconde année s'est joué en une semaine de rattrapage stressante et décisive. Je me suis jeté à corps perdu dans des séances de révision intenses, sans être convaincu pour autant que la réussite était encore à ma portée. Et, à ma grande surprise, j'avais réussi. J'avais validé mon admission en seconde année. Cela a été déterminant pour la suite. Ma revanche sur la vie. La philosophe Chantal Jacquet a proposé un néologisme, les transclasses, pour définir les personnes qui réussissent à braver les lois de la reproduction sociale, à se sortir des déterminismes sociaux et des milieux défavorisés, pour passer de l'autre côté. Je me reconnais dans cette définition. Si je n'avais pas poursuivi mes études, je n'aurais pas pu jouir de la liberté intellectuelle que l'université m'a accordée, ou rencontrer toutes les personnes qui allaient m'aider. Comme le disait Coluche, les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. J'ai ainsi cherché à pousser toutes les portes qui se présentaient sur mon chemin. Cela m'a conduit à produire et à animer une émission de radio hebdomadaire, à diriger des équipes, à gérer des communautés, à m'initier un peu au journalisme, à faire un stage incroyable à France Culture, à accompagner des porteurs de projets, à représenter mon université pour une mission au ministère de l'Enseignement supérieur, à tester des vêtements de qualité pour Bonne Gueule, à donner des cours et j'ai même écrit des sketchs pour un humoriste. Après mon Master 1 en information et communication, je me suis intéressé au monde entrepreneurial. En 2015, j'ai participé au tour Ticket for Change, un programme visant à accélérer les premières étapes pour approfondir, tester et lancer un projet entrepreneurial à impact positif. Cela a été l'une des plus grandes expériences humaines que j'ai pu vivre à ce jour. Pour la première fois, j'ai été invité à l'introspection et à explorer de nouvelles perspectives qui étaient inédites pour moi. Ce moment bouleversant m'a amené à me remettre profondément en question pour trouver un sens à ma vie. Une porte était entrouverte, mais il me manquait encore quelque chose pour agir. C'est ainsi que j'ai réussi à rejoindre Lyon, une formation lancée par The Family, qui se présente comme l'école de l'avant-garde des employés. Grâce à cette expérience, je me suis un peu initié à la culture et à l'esprit start-up. J'ai fait quelques belles rencontres et j'ai mieux compris le monde entrepreneurial. Mais j'ai surtout réalisé que je ne pouvais pas me résoudre à être un employé, à travailler pour les rêves des autres, à épouser les valeurs morales et politiques d'un leader qui ne m'inspirerait pas. Au regard de ce constat, je me devais d'entreprendre pour conjuguer ma passion, ma vocation et ma mission en une profession inspirante. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ouvrir une porte en combinant mes compétences et mes aspirations.